J et Z, deux belles lettres pour une interprète à la voix majuscule qui nous revient avec un nouvel album aux tonalités pop, mais pas seulement. Bonjour Julie Zenati.
Bonjour.
Très heureux de vous avoir avec nous. Alors, on vous a connu comme la Fleur de Lys dans le spectacle musical Notre-Dame de Paris. Depuis, eh bien, la Fleur s'est épanouie à travers une dizaine d'albums, dont le dernier, Refaire danser les fleurs. On va le découvrir avec vous, de même que les engagements qui vous tiennent à cœur. Tout doux, le pouvoir d'une fleur, c'est parti.
Tout doux, avec Vincent Belletti.
Mais si je m'en sors, sans bleu encore, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur.
Si je m'en sors, extrait de votre premier album studio Fragile qui est sorti en 2000, énorme tube disque d'or écoulé à 150 000 exemplaires. Julie Zenati, est-ce que vous expliquez la raison de ce succès ou ça reste encore mystérieux ?
Ça reste mystérieux parce qu'on ne comprend jamais pourquoi une chanson tout d'un coup devient la chanson des gens, d'autant plus quand c'est le premier texte que j'écris, qu'à ce moment-là j'ai 18 ans et que je ne sais absolument pas comment est-ce qu'on va prendre mon petit journal intime en fait. Et je ne me pose pas la question, c'est vrai, à ce moment-là je chante parce que j'en ai besoin et je ne sais pas que je vais recevoir autant d'échos et que cette chanson va parler à autant de gens.
Remarquez, si on connaissait la recette du succès, hein, ça serait vite fait pour tout le monde. Julie Zenati, on va remonter un petit peu dans le temps. Vous êtes née à Paris la même année, notamment qu'Audrey Lamy, Justine Timberlake et Natacha Saint-Pierre. Avec qui vous aimeriez prendre un verre en terrasse prochainement ?
Avec Audrey Lamy, peut-être,
oui,
pour rigoler
oui.
un petit peu. Parce que c'est
peu.
Une femme que j'aime beaucoup, que je trouve très talentueuse. Natacha, on a déjà bu beaucoup de verres ensemble. Et Justin Timberlake, mais maintenant je suis une femme mariée, donc j'éviterai.
Vous éviteriez la tentation. Une mère française, voilà. Un père d'origine algérienne, berbère, alors de la tribu, paraît-il, des Zénètes. Est-ce que c'est là d'où vient votre nom, Juliette Zenati ? Julie, pardon, Zenati.
Julie, oui.
Julie, excusez-moi.
Je vous en prie. Alors, mes deux parents, en fait, sont d'Algérie, hein, pas juste mon père. Et oui, mon nom vient d'une tribu berbère qui s'appelait les Zénètes. Et puis ensuite, ils ont voyagé, ils sont passés en Espagne. Et finalement, mes parents sont nés en Algérie et moi, je suis née en France.
La musique, comment est-ce qu'elle est rentrée dans votre vie, Julie Zenati ?
La musique, c'est vraiment un cadeau et une transmission un peu familiale. Mon père a toujours joué du piano, ma mère a toujours chanté, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison, donc ça faisait partie de notre quotidien. Et puis, un jour, c'est devenu un peu plus que le quotidien, c'est devenu mon métier.
La légende raconte justement que c'est lors d'un séjour en vacances qu'un directeur de maison de disques vous a repéré, c'est vrai ou pas ?
Oui, ça fait partie de l'histoire. J'ai chanté dans un karaoké un vendredi soir. J'étais toute jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 11 ans. Et puis j'ai chanté une chanson de Whitney Houston, Bodyguard venait de sortir. Et moi, j'étais très très fan de Whitney Houston. Et puis quelques minutes après que j'ai chanté, on est allé voir mes parents pour savoir si j'avais l'ambition de vouloir devenir chanteuse, si je faisais une école spéciale, etc. Et puis rien de tout ça et malgré tout ça a été une rencontre superbe parce que grâce à cette première rencontre j'ai eu l'opportunité ensuite d'apprendre finalement de manière assez cool mon métier.
Alors justement vous allez enregistrer un premier titre puis deux autres avec un grand monsieur de la musique, un chanteur-compositeur américain qui s'appelle Lenny Kravitz, mais ces titres ne vont pas sortir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
À ce moment-là, on n'était pas du tout dans l'époque où il y avait de jeunes artistes et de jeunes chanteuses. C'est vrai que moi, j'avais aucun moyen de m'identifier finalement, et mes parents ne venant pas du tout de ce milieu-là, c'est vrai que pour nous, c'était un monde complètement à part et un peu étrange. Alors j'ai commencé à avancer là-dedans, et puis au bout de quelques mois, j'ai dit à mes parents que je me sentais pas très à l'aise avec tout ça. et que pour moi, ce qui m'importait le plus, c'était d'aller à l'école, à la, au boom de mes copines, et pourquoi pas que le plus beau garçon de l'école tombe amoureux de moi, quoi.
Ouais. Alors, en tout cas, ce n'est que partie remise, hein, puisqu'en 96, au Francofolie de La Rochelle, vous allez faire la connaissance de Luc Plamondon en recherche d'une interprète pour sa comédie musicale Notre-Dame de Paris, d'après l'œuvre de Victor Hugo. Comment s'est faite cette rencontre?
Alors, cette rencontre s'est faite dans les gradins d'un spectacle, en fait. Les Francofolies avaient organisé une rencontre franco-québécoise, donc des artistes français, puis des artistes québécois, sur la grande scène. Donc, moi, j'ai assisté au concert avec Daniel Molko, qui a été la première personne, finalement, à me faire rentrer plus ou moins dans ce métier par la porte la plus cool, qui est celle, finalement, de la production, puisqu'elle était productrice des Francofolie de La Rochelle avec Jean-Louis Foulquier. Et puis Luc Plamondon, donc, qui était un peu le maître de cérémonie, va la voir, discute avec elle et puis lui parle de ce projet, non pas de Notre-Dame de Paris, mais d'un futur spectacle qu'il voudrait mettre en place en France, etc. Et moi, je connaissais son nom parce que il était sur un de mes CD à la maison, puisque ma sœur était
Starmania.
Fan de Starmania. Mais je ne connaissais pas son visage. Et puis, pour tout vous dire, je ne comprenais absolument pas ce qu'il racontait, puisqu'il a un accent québécois qui était extrêmement fort et on n'avait pas vraiment l'habitude encore de ce langage, donc je le regardais comme ça, je lui disais tout le temps oui, parce qu'il me parlait mais je ne comprenais pas du tout. Et puis quelques mois plus tard, je me suis retrouvée dans un studio à Paris et à chanter.
Alors, vous allez faire justement partie de la distribution aux côtés de Patrick Fiori, Daniel Lavoie, Hélène Ségara et Garou. Vous serez donc Fleur de Lys, la fiancée du chevalier Phoebus, tombée amoureux de la belle Esmeralda, une fiancée plutôt jalouse. Écoutez.
Quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature, ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure qui court à l'aventure? Y a-t-il un cœur sous ton armure? Le mien est pur comme l'azur, laisse-moi penser tes...
Voilà, la monture, extrait de Notre-Dame de Paris, un spectacle au succès phénoménal. En France, plus d'un million d'albums vendus, 2 millions de singles, 1 million d'entrées de spectateurs. Comment on gère cette célébrité quand on a 17 ans, Julie Zenati?
Oh ben moi, vous savez, j'ai été assez préservée, c'est-à-dire que moi, j'ai continué à aller au lycée la journée, puis le soir, j'allais au Palais des Congrès jouer. Contractuellement, je n'avais pas le droit de faire de la promotion parce que on avait décidé qu'il fallait que je continue mes études. Non, et puis c'était un choix aussi qu'on avait fait avec mes parents et la production qui était extrêmement bienveillante. Donc en fait, on a commencé finalement à voir mon visage que lorsqu'on est parti au Canada. Et en fait, c'est quand je suis rentrée du Canada que là, je me suis rendu compte que je faisais partie d'une énorme machine et que ça me dépassait grandement.
Vous aviez peur ou vous étiez plutôt contente?
Je crois que j'étais un peu stupéfaite. Je pense que je suis restée dans un état de stupéfaction pendant 2-3 ans. Hein. C'est-à-dire que pour moi, ça me semblait tellement étrange que les gens puissent s'attacher finalement à des gens qu'ils ne connaissent pas. Ce principe d'admiration comme ça, alors là, qui n'était pas virtuel, puisque les gens se déplaçaient pour venir nous voir, mais ça me semblait très bizarre,
hein.
En fait. Oui, c'était avant.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour apprivoiser ce nouveau statut pour les gens. Moi, vous savez, je suis la deuxième de la fratrie, donc j'ai une place de seconde, quoi. Et c'est vrai que du coup, tout d'un coup, d'être entrée comme ça dans le cœur des gens de façon assez directe, ça a été un grand choc quelque part.
Alors, par la suite, vous êtes lancé, comme on dit, 8 albums, sans compter celui de Notre-Dame. On peut citer La Boîte de Pandore, Plus de Diva avec un hommage à la Callas, Méditerranéenne en référence à vos origines, dont on parlera tout à l'heure, des participations aussi à des émissions de télé aussi variées que N'oubliez pas les paroles, Les Reines du Shopping ou encore Mask Singer, où vous êtes déguisé en panda. Je ne sais pas s'il faisait chaud là-dessous, Julie Zenati.
Ben, on peut imaginer que d'être aussi poilu peut évidemment
peut donner quelques sueurs. Voilà.
Voilà.
En tout cas, une émission qui a été très suivie. Une artiste aussi qui s'engage, notamment pour la scolarisation des petites filles défavorisées, et puis aussi contre les violences faites aux femmes. On y reviendra tout à l'heure. De même que votre dernier album, Refaire danser les fleurs, ce sera tout de suite après une page musicale que vous avez choisie. Une chanson qui donne toujours des frissons. C'est Mon Dieu d'Edith Piaf. Pourquoi elle et ce titre en particulier, Julie Zenati?
Parce que c'est le premier titre que j'ai chanté avec mon père accompagné au piano, et que la première fois que quelqu'un d'autre que mon père a dit que j'avais une voix un peu particulière, c'est l'accordeur de piano qui était venu accorder le piano, qui était aveugle, et qui m'a entendu chanter et qui a demandé à mon père « Mais qui est cette jeune femme qui chante ?» Et mon père lui dit « C'est ma fille, elle a 8 ans. » Et à partir de ce moment-là, j'ai vu dans les yeux de mon père... quelque chose d'assez magique. J'avais l'impression qu'on vivait un début de passion musicale ensemble. Donc cette chanson est très importante.
Mon Dieu d'Edith Piaf, on se retrouve tout de suite après pour parler de votre nouvel album. Mon Dieu d'Edith Piaf, le choix de Julie Zenati, auteur, compositeur, interprète, ex-fleur de lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. On entendait, Julie, la voix d'Edith Piaf. La vôtre, elle est pas mal non plus. Hein. Je crois que c'est une soprano qui couvre 4 octaves. Vous me détrompez pas? Oui, c'est ça?
Oui, après, c'est vrai que je m'en sers pas tout le temps, hein, mais
c'est pratique pour appeler les enfants, non?
C'est très pratique pour appeler les enfants, puis les dauphins aussi, on peut faire ça aussi.
Et puis les dauphins, pourquoi pas.
Voilà.
Julie Zenati qui nous revient avec un nouvel album, dont cette chanson, écoutée.
J'ai encore des choses à te dire. La nuit, j'entends tes mélodies. Toutes ces histoires qui me traversent. Au jour j'en fais des poésies. On s'est peut-être croisé sur un slow, au dos d'une lettre ou entre deux carreaux. Mon cœur sait pas la jouer solo. À chaque printemps.
Refaire danser les fleurs, c'est l'un des titres qui donne d'ailleurs le sien à votre nouvel album, Julie Zenati. Pourquoi ce titre d'ailleurs, Refaire danser les fleurs? Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'album qui parle de vous, même si vous n'êtes pas fleuriste? On le précise tout de suite, hein, Julie Zenati.
Ouais. Oui, bah, oui, venir un album, c'est toujours un peu autobiographique, hein, forcément. Ouais. Après, il couvre des périodes différentes de nos vies. Ouais. Moi, en 8 albums, j'ai passé 20 ans, donc en 20 ans, on grandit. J'ai le sentiment que, en vieillissant, il est toujours possible de pouvoir faire repousser des fleurs, même sur des endroits arides, des endroits sans lumière, des endroits abandonnés. On dit que la nature reprend toujours ses droits, et je suis assez persuadée de ça, malgré les choses les plus difficiles qu'on peut vivre dans la vie. Et cette chanson, c'est un peu ça.
Voilà, rebondir après des épreuves. Alors, il y a des thèmes que vous abordez dans cet album, comme la difficulté à vivre en couple, hein, sur la même longueur d'onde. Il y a l'amitié, il y a le temps qui passe. La difficulté aussi à être une mère à la fois active, attentive, sans perdre de vue ses rêves. C'est ce que vous avez connu avec la naissance de vos deux enfants, Julie et Nati?
Bah, c'est toujours une peur, c'est-à-dire que quand on a une grande joie comme ça qui arrive dans votre vie, un enfant, c'est toujours une grande joie. Et ma mère dit toujours que c'est une nouvelle chance en fait dans la vie, parce que c'est une façon de prendre une autre place et de s'envisager encore autrement. Et c'est vrai que moi, avant de m'envisager, on m'a d'abord envisagée, puisque finalement je suis devenue chanteuse alors que j'avais même pas eu le temps de le rêver. Et c'est vrai qu'à la naissance de ma première fille, ça a été compliqué pour moi de me dire aujourd'hui, en fait, si je me pose sincèrement la question, vraiment j'ai envie d'être quoi, et j'ai envie d'être qui, et j'ai envie de prendre quelle place. Et parfois ce sont des questionnements, mais comme pour toutes les femmes, je pense, assez compliqués, parce que parfois on a finalement besoin de beaucoup moins de choses que ce qu'on pense, et quand on en prend conscience, ça donne le vertige.
Être mère, mais aussi ne pas perdre de vue qu'on est aussi une femme. Également un thème qui vous touche personnellement et dont on reviendra tout à l'heure à travers la chanson Plein Phare. En tout cas, c'est un album au rythme très pop, hein, très style années 70-80. On sent l'influence de, je sais pas, de Véronique Sanson, de William Scheller, de Michel Berger. J'imagine que c'est pas un hasard, Julie Zenati.
Bah, c'est vraiment toute la discographie de mon enfance, et en fait c'est la discographie qui a emprunté mes oreilles, mes harmonies, qui sont aussi c'est toutes ces chansons-là que mon père joue au piano en fait, et j'ai eu besoin de faire un album un peu doudou, et du coup naturellement je me suis rapprochée de cette musicalité-là qui était pour moi très instinctive et très réconfortante, et je pense que c'est pour ça qu'on sent aussi toutes ces influences.
En tout cas, c'est un album qui est vraiment très très réussi. Julie Zenati, on va continuer à l'explorer, hein, cet album, de même que votre univers musical. Est-ce que vous êtes d'un tempérament qui stresse vite d'habitude? J'en ai pas vraiment l'impression. Je crois que vous êtes revenu un petit peu de ce stress, mais est-ce que je me trompe ou pas?
Non, moi je suis quelqu'un. Non, je suis très stressée. Moi, je suis quelqu'un de très angoissé. Je somatise énormément. Après, je sais que il faut faire attention de pas trop le communiquer, surtout quand on a des enfants. On se rend compte que voilà, il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, mon stress est beaucoup moins envahissant pour les autres. Je le gère mieux.
Bon, en tout cas, chaque mercredi, on a notre petit exercice de détente. C'est avec Chantal de Méguillard. Elle est psychologue clinicienne. Et aujourd'hui, eh bien, on va apprendre à se relaxer en réunion.
Ma vie en mieux.
Bonjour Chantal. Alors d'habitude, quand on dit garder les bras croisés, c'est synonyme de ne rien faire. Mais vous, vous allez donner un autre sens à cette expression, en mode détente pendant une réunion. Expliquez-nous, Chantal.
Bonjour Vincent. Installez-vous sur une chaise ou dans un fauteuil, dans votre bureau ou lors d'une réunion. Asseyez-vous confortablement, vos deux pieds bien à plat sur le sol. Bougez vos orteils à l'intérieur de vos chaussures, dépliez-les, étalez-les de toute leur longueur et de leur largeur. Prenez conscience des éventuelles tensions au-dessus de vos pieds, dans vos jambes. Dans le même temps, croisez vos bras en cachant vos mains et serrez vos poings très fort sous vos bras croisés. Vos épaules sont en position basse.
Et évidemment, on croise les bras sans se faire remarquer, Chantal.
Oui, vous seul ressentirez ces tensions que vous êtes en train d'exercer dans vos poings et mains, et de l'extérieur rien ne se verra. Votre visage et vos pieds seront décontractés si vous le pouvez.
Et combien de fois fait-on cet exercice de contraction souterraine?
Vous faites cet exercice 3 fois de suite en respirant un peu plus amplement entre les séquences. De plus, si vous pratiquez cet exercice pendant une réunion un peu difficile, vous paraîtrez détendu, au moins le haut du corps, et dans le même temps, vous pouvez activer des tensions dans les mains et les détendre. C'est ce que l'on appelle la méthode de relaxation de Jacobson, qui est un ressenti de détente après des tensions musculaires.
En bref, si je vous résume, c'est un exercice de détente en milieu hostile.
Oui, c'est un exercice de relaxation au cœur de l'action. Et ça permet de prendre du recul dans votre environnement, d'évacuer des petites tensions et de vous recentrer. L'intérêt de cet exercice est de séparer le haut et le bas du corps et d'en prendre conscience. C'est un secret entre vos bras, vos pieds et vous. Et votre réunion se passera bien.
À tester donc lors de la prochaine réunion en présentiel, parce que pour l'instant à distance, eh bien vous pouvez toujours rester détendu en pyjama, à condition bien sûr de débrancher la webcam. En attendant, merci Chantal et puis à la semaine prochaine.
Merci Vincent.
Voilà, pas facile de se détendre en télétravail quand les enfants vous balancent les jouets en pleine visioconférence. Notre invitée du jour, Julie Zenati, est l'occasion de la sortie de son dernier album, Refaire danser les fleurs. Julie Zenati, vos origines sont algériennes, hein, avec vos parents, et ce sont des racines que vous n'avez pas oubliées, y compris en duo, on a les preuves.
Zinaton, nous sommes comme le chant du couchant. Du levant résonne l'écho du vent. Quatre lettres dans ta main signent ton chemin. Fait de tant de fils, tu es partout chez toi. Petite fille née ici, de parents d'ailleurs, ma bonté. Que la vie devant toi mélange rive et langage.
Zina chantait en duo avec Chimène Batty. Alors, il y a eu cet album Méditerranéenne, un projet que vous avez initié avec d'autres interprètes. Il y avait Chimène Batty, Elisa Tovati, Claudio Capeo, Nawel Melkrayem, Slimane et Enrico Macias. Un album écrit en 7 langues. Pourquoi ça vous tenait autant à cœur, cet album, Julie Zenati?
Ça me tenait à cœur parce que on venait de vivre des moments très douloureux en France et ailleurs. Et ma fille était toute petite et je me suis posé la question de savoir dans quel monde on allait faire grandir nos enfants et surtout quelles sont les choses qu'il faudrait leur raconter et puis les choses qu'il ne faudrait pas leur raconter. Et je me suis souvenue que moi j'ai grandi dans un environnement où l'identité, la religion n'était absolument pas un problème. Au contraire, c'était plutôt une source de richesse, de partage. On racontait nos cultures au travers des fêtes, au travers de langues aussi qui se parlaient dans les familles de mes amis, etc. Et puis je me suis demandé comment est-ce que j'allais raconter son histoire à ma fille. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que pour pouvoir lui raconter son histoire, il fallait que je raconte la mienne. Et la mienne, c'est celle d'un peuple qui a grandi et qui s'est enrichi avec et aux côtés d'autres peuples issus de la Méditerranée. Et c'est pour ça que pour moi, il était très important de pouvoir raconter mon histoire avec celle des autres, parce que c'est plus qu'un écho, ce sont des histoires qui sont jumelées, jumelles, et qui sont essentielles à la bonne compréhension de la vie en communauté, en fait. Voilà, donc c'est comme ça que Méditerranéenne est née.
Voilà, Méditerranéenne, un album que je vous invite vraiment à redécouvrir, hein, avec tous ses interprètes. Julie Zenati, vous êtes artiste, mais vous êtes maman, hein, on l'a dit. Est-ce que vous prenez de temps en temps le temps de faire des activités régulièrement ensemble ou vous avez un emploi du temps vraiment trop chargé?
Non, j'ai plutôt de la chance. Moi, je suis pas comme les gens au bureau, donc j'ai plutôt la chance de pouvoir faire plein de trucs avec mes enfants.
Ouais, de la pâtisserie, je sais pas, de petits bricolages, ça arrive de temps en temps, oui.
On fait tout ce qui les intéresse. Donc, comme les enfants veulent toucher à tout, on fait tout.
On fait tout. En tout cas, si vous manquez d'idées, elle saura vous en fournir. Elle, c'est Claire Decan des éditions Fleurus. Et aujourd'hui, elle va nous inviter à devenir des hommes ou des femmes de lettres.
Ça reste en famille.
Bonjour Claire.
Bonjour Vincent et bonjour Julie.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous proposez d'écrire de jolis messages grâce au lettrage créatif, appelé aussi lettering. Qu'est-ce que c'est que ce lettrage, Claire?
Alors, le lettrage, c'est l'art de dessiner les lettres. Ce n'est pas la même chose que la calligraphie. Donc, on peut facilement dessiner des lettres amusantes et composer des messages originaux avec des feutres ou des crayons de couleur, ou bien encore de la peinture ou des papiers découpés même.
Alors voilà pour la théorie, alors on va passer à la pratique. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner une jolie lettre ?
Alors vous allez tracer sur votre feuille des lignes au crayon à papier, il ne faut pas hésiter, sans trop appuyer. Vous les gommerez après. Et elles vous serviront de guide pour dessiner la forme générale de votre lettre. Pour les lettres en italique, vous pouvez tracer des lignes obliques. Et vos lettres n'ont pas besoin d'être parfaites, c'est tout le charme du lettrage.
Alors une fois qu'on a dessiné la lettre de base, qu'est-ce qui se passe ?
Alors vous allez ensuite pouvoir épaissir les contours de la lettre, les repasser au feutre fin, puis vous allez colorier l'intérieur, lui rajouter plein d'éléments qui la rendront unique. Alors comme éléments, ça peut être des motifs géométriques simples, comme des triangles, des rayures, des poids. Vous pouvez aussi ajouter sur vos lettres des boucles et toutes sortes d'ornements pour une ambiance, par exemple pop, tropicale ou encore printanière.
Et on peut aussi dessiner des mots et même des messages.
Voilà, donc c'est le but. Et pour décorer, ça peut servir pour plein de choses. Vous pouvez décorer votre cahier de texte, vous pouvez offrir des petits messages à votre famille ou vos amis, ou bien les afficher dans votre chambre selon vos envies. Ça peut être des messages positifs, comme « la vie est belle » ou « bonheur » par exemple, mais ça peut être aussi « joyeux anniversaire » ou « bonne fête maman », enfin c'est à vous de voir.
Alors un petit conseil pratique, une petite illustration, par exemple pour composer le message « refaire danser les fleurs hein, » qui est le titre du dernier album de Julie Zenati, qu'est-ce que vous nous conseillez Claire ?
Alors oui, vous pouvez choisir pour ce message un style léger et coloré, et le disposer un peu en oblique pour que ça danse un peu. Vous pouvez dessiner les mots « danser » et « fleurs » en plus gros, et ajouter des motifs sur vos lettres comme des corolles, des branches de feuilles, etc. Vous pouvez aussi ajouter des éléments autour de votre message, des fleurs, des petits éclats. Et pourquoi pas faire une lettrine pour le R du premier mot, ou bien encore insérer votre message au centre d'une couronne de fleurs.
Ça vous inspire, Julie Zenati, refaire danser les fleurs en lettrage ?
Ah oui, je trouve ça génial et j'aime beaucoup l'idée de mettre un peu en oblique pour montrer les lettres qui dansent. C'est vrai, c'est très malin.
C'est très malin. On va laisser place à notre fantaisie. Comment est-ce que vous êtes initiée au lettrage, Claire ?
Alors, je me suis appuyée sur le livre « J'écris des jolis messages » de Sandrine Monnier chez Fleurus. C'est un livre qui est plein d'astuces et d'exemples en pas à pas, qui est parfait pour se lancer, pour les enfants, mais aussi leurs parents.
Eh bien, en toutes lettres, oui, en toutes lettres, M-E-R-C-I, merci Claire, et à la semaine prochaine pour nous mettre à la page avec d'autres idées bricolage. Merci Claire.
À la semaine prochaine, merci à vous.
Voilà l'alphabet, je vais y arriver, Julie Zenati, vous restez avec nous dans un instant, on parlera cinéma et puis aussi d'une cause qui vous tient particulièrement à cœur, à tout de suite.
Viens avec nous, nous serons tous ensemble, pour toujours avec elle, princesse Starla, le joyau magique.
Je ne sais pas si vous avez reconnu ce générique, Julie Zenati.
Oui, j'ai reconnu ce générique. Alors là, ce n'est pas moi qui chante. Hein, mais
C'est pas vous qui chantez ? Zut alors. Écoutez, voilà. Je suis vraiment désolé. On a essayé de retrouver ce générique. Donc, ce n'est pas vous. Mais enfin, vous l'avez interprété, ce générique.
Alors, pas ce générique, mais en tout cas, toutes les chansons qui habillaient ce dessin animé. Donc, il y a une douzaine de chansons issues de ce dessin animé.
Bon, bah écoute, on va revoir nos fiches. En tout cas, Princesse Starla et les Joyeux Magiques, diffusés en 95 sur France 3, qui a dû bercer toute une génération de petites filles. C'est d'ailleurs pas le seul dessin animé auquel vous avez participé.
Non, j'ai eu la chance aussi de doubler la voix de Barbie et de faire deux chansons. Et puis, et aussi La Belle et la Bête. Donc,
La Belle et la Bête. Est-ce que ça vous plaît, ce genre d'exercice, Julie Zenati ?
Oui, j'aime beaucoup ce principe de rentrer dans des personnages. Et j'ai beaucoup aimé faire des choses pour les enfants parce que c'est vrai que on a tendance à se dire, pas à se dire, mais on a tendance à se rendre compte que parfois on utilise un langage un peu niais pour les enfants. Et pour moi, ça a été un vrai challenge de réussir à écrire deux chansons et mettre des mots pour Barbie qui n'étaient pas trop nul,
trop gnangnan, quoi.
Voilà, trop gnangnan, quoi. Ouais. Non, mais c'était très chouette à faire.
Julie Zenati, notre invitée dans Tout Doux aujourd'hui, auteur, compositeur, interprète, qui fait son retour avec un nouvel album, Refaire danser les fleurs. On parlait films et dessins animés. Alors justement, quel est le genre de film que vous appréciez, Julie ?
Moi, j'aime beaucoup les films français. J'aime les films qui sont un peu comme des contes. Donc, ça peut aller. J'aime beaucoup Jeunet. J'aime beaucoup Ozon. J'aime beaucoup. Voilà. Enfin, évidemment, Amélie Poulain. Tout ce genre de films-là a bercé mon enfance. Et j'aime cet esthétisme-là et ce côté un peu conte.
Vous avez jamais encore tourné au cinéma, Julie Zenati?
Non, jamais, je suis trop
Non,
timide pour ça.
trop timide pour ça. Bah, restez à la chanson,
Ouais.
c'est déjà pas mal.
C'est
Ça
déjà
vous
pas
occupe
mal.
déjà pas mal. Patience en tout cas avant la réouverture des salles, normalement prévue le 19 mai. En attendant, eh bien, chaque mercredi, Renauvol nous offre une séance de rattrapage. Et aujourd'hui, un film à suspense, mais pas américain.
Bon, attention, moteur!
Annonce!
Grâce à moi, vous deviendrez la plus grande star du monde.
Coupez!
Perles de culture.
Bonjour Renaud, alors coup d'œil dans le rétro à l'occasion d'une double actualité pour un même réalisateur, l'espagnol Rodrigo Sorogoyen.
Oui, la diffusion de son premier film, Que Dios nos pardone, que Dieu nous pardonne, la traduction était facile, sur Arte, lundi prochain, deuxième partie de soirée. Puis un peu plus tard dans la semaine, toujours la semaine prochaine, sa première série télé Antidisturbios sur Canal+. Ce sera très précisément le jeudi 16 mai.
Alors pourquoi ce réalisateur espagnol mérite notre attention, Renaud?
Parce que ces films sont de véritables expériences pour nos nerfs. Qui a vu les 10 premières minutes de son film Madré, sorti l'été dernier, ne peut pas oublier cette mère qui communique avec son petit garçon perdu sur une plage. Elle ne peut rien faire si ce n'est continuer à communiquer avec lui.
Et pourtant, c'est son deuxième film que vous nous recommandez plus particulièrement.
El Reino, sorti il y a précisément 2 ans. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de nervosité qui a d'ailleurs été reconnu comme tel. Il a reçu 7 Goya, c'est-à-dire l'équivalent des Césars en Espagne. Alors, vous vous souvenez sans doute, Vincent, dans les années 80, il y avait une publicité où Bernard Tapie marchait sans que rien ne puisse l'arrêter. Qu'est-ce qui fait marcher Tapie? Qu'est-ce qui fait marcher Tapie? C'était le slogan. Et donc, en voyant El Reino, le film de Rodrigo Sorogoyen, difficile de ne pas penser à tous ces hommes d'affaires ou ces hommes politiques qui ne jettent jamais l'éponge et qui reviennent sans fin, malgré les procès, les condamnations, les affaires, voire les épreuves personnelles comme la maladie et suivez mon regard.
Effectivement, on suit très bien le regard. El Reno vous a captivé, Renaud, et pourtant c'était pas gagné.
Oui, parce qu'on débarque dans un repas où tout le monde se tape dans le dos, on ne comprend pas grand-chose au départ, et c'est normal, tant toutes ces personnes partagent un même secret, et finalement une même corruption, ils trempent tous dans la même affaire. Alors ce qu'on comprend assez vite, c'est que la carrière du personnage principal, Manuel, est en danger. Sa corruption va paraître au grand jour et ruiner sa carrière s'il ne fait rien.
Prevaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. ¿Algo que declarar?
No tienes nada.
Tú hubieras hecho lo mismo, pero no lo hice.
Voilà, petit extrait de la bande-annonce pour nous mettre dans l'ambiance. Et c'est vrai que le film va nous entraîner sur les pas de cet homme dont la carrière est en danger.
Des pas, le mot est faible. Il va plutôt s'agir d'une course contre la montre. La caméra ne le lâche pas, nerveuse, comme le jeu de son acteur époustouflant, Antonio de la Torre. La fiction transforme la question politique de la corruption en thriller haletant, avec au moins 3 scènes que vous n'êtes pas près d'oublier. Une qui se déroule dans une villa où le personnage principal est confronté à des jeunes qui sont en train de faire la fête. Une interview télé où là aussi il doit se défendre. Et une course automobile digne du meilleur film d'action. Alors ce sont des scènes quasiment filmées d'une traite qui jouent avec nos nerfs en réussissant à marier temps long et nervosité au service d'un suspense haletant. Ce suspense est mis au service, bien évidemment, d'un propos. Rodrigo Sorogoyen donne à voir ces hommes qui sont complètement drogués par le pouvoir, qui peuvent en mourir si on les prive de cette drogue et qui perdent complètement de vue le sens de leur mission politique.
El Reino de Rodrigo Sorogoyen, à voir donc sur la plupart des plateformes de vidéo à la demande ou encore en DVD. Merci Renaud, l'homme pressé mais qui n'a rien à se reprocher et qu'on retrouvera avec plaisir la semaine prochaine pour un autre gros plan cinématographique.
À la semaine prochaine Vincent.
17h-18h, c'est tout doux sur RCF.
Et suite de cette émission avec notre invité Julie Zenati, auteur, compositeur, interprète, à l'occasion de la sortie de son nouvel album « Refaire danser les fleurs ». Alors Julie, vous êtes une artiste particulièrement engagée. Vous avez intégré les Enfoirés de 2003 à 2009, l'opération La Rose Marie-Claire au profit de la scolarisation des petites filles défavorisées dans le monde. C'était à travers la chanson « Pour que tu sois libre ». Vous êtes également mobilisée pour le mariage pour tous, une participation au concert Urgence Tchétchénie au Palace, mobilisation également aux côtés de 70 célébrités pour Urgence Homophobie. Et puis en mai 2015, il y a N'oubliez pas les paroles au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale. Bref, ça fait beaucoup. À chaque fois, on vient vous chercher ou c'est vous qui allez spontanément, Julie Zenati ?
Ça dépend des associations. Il y a vraiment deux associations qui sont des associations que je porte peut-être plus que d'autres, c'est-à-dire l'association Grégory Lemarchal qui lutte contre la mucoviscidose et la Maison des Femmes. Après, il y a très souvent des associations qui ont besoin de récolter des fonds, donc qui vont chercher des gens avec une petite notoriété. Donc c'est aussi pour ça que parfois je me suis retrouvée à apparaître dans d'autres associations qui me tiennent évidemment à cœur, mais on est venu me chercher pour un projet bien spécial. C'est un autre engagement.
Mais à chaque fois, vous y allez volontiers. Vous dites qu'une artiste, l'engagement, quand elle peut, ça fait aussi partie du métier, entre guillemets.
Non, pas du métier, non. C'est pas comme ça que je le dirais. Je me dis que si notre petite notoriété peut permettre de mettre en lumière certaines causes, il faut le faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir, entre guillemets, ce pouvoir-là. Donc autant le faire. On a des réseaux qui sont assez puissants. On a des gens qui nous entendent et qui nous écoutent. On a aussi la possibilité de pouvoir parler en médias. Donc c'est une façon de pouvoir mettre en lumière des causes. Après, chacun fait comme il le sent. Moi, c'est vrai que j'ai été éduquée comme ça. J'ai eu la chance qu'on me donne beaucoup. Si je peux rendre un tout petit peu de ce qu'on m'a donné au travers de ma voix et de cette lumière, alors je le fais.
En tout cas, une cause qui vous tient particulièrement à cœur, vous avez commencé à la citer et vous l'avez aussi abordée à travers une chanson. Elle s'intitule « Plein phare » et c'est tiré de votre dernier album. Écoutez ce petit extrait.
Il y a bien cette petite fille, un dimanche à Bastille, et puis tout qui vacille, son foulard à pois blanc, vestige du printemps qui a volé le temps, il s'enfuira peut-être, mais jamais de sa tête, il en a fait des miettes, ils ont couru et puis, ils ont couru et puis. J'ai essayé de croire en la scène et la gloire, mais c'est toujours le noir, plein phare.
Voilà cette petite fille dont la vie bascule, on peut le dire, c'est vous, Julie Zenati, agressée lorsque vous étiez enfant.
C'est un peu abrupte comme...
Je ne sais pas comment interpréter cette chanson. Oui.
Ah bah après, tout est dit dans la chanson. Après, on va là où on a envie d'aller.
Ouais. Et c'est ça qui vous a incité à rejoindre la structure Maison des Femmes dont vous nous parliez tout à l'heure ?
Non, pas du tout. J'ai intégré la Maison des Femmes il y a quelques années grâce à mon amie Ina Modja, qui est une chanteuse qui a été la première à parler d'excision. Et elle a organisé un concert pour justement pouvoir mettre en lumière cette lutte et cette cause qui n'arrive pas que en Afrique et voilà et pour mettre aussi en lumière un médecin qui s'appelle Gada Atem qui a créé une structure et une association afin d'aider les femmes tout d'abord à se reconstruire physiquement puis psychologiquement et ensuite elle s'est rendue compte que au-delà de ça les femmes aussi avaient besoin d'un lieu d'accueil dans des milieux défavorisés afin de pouvoir aussi se reconstruire après des violences et quand j'ai rencontré ce médecin et puis tous les bénévoles j'ai eu envie plus que de chanter de m'investir dans l'association donc je suis bénévole là-bas maintenant depuis un peu plus d'un an et voilà. Alors justement... en fait c'est plutôt un engagement de
maison
femme.
Maison des Femmes, justement. Est-ce que vous pourriez nous présenter son action? D'abord, où est-ce que ça se situe? Et puis, à qui ça s'adresse très précisément?
Alors la Maison des Femmes, il y en a plusieurs. Il y en a, pour l'instant, il y en a deux et une troisième en construction. Une à Bordeaux, une à Saint-Denis et une à Marseille qui est en train d'être construite. C'est une maison qui accueille les femmes dans leur parcours de reconstruction. Donc soit suite à des violences conjugales, familiales, ou bien aussi des femmes victimes d'excision, même si ce sont des violences, et elles sont suivies en fait de A à Z, c'est-à-dire que on les reconstruit donc physiquement, psychologiquement, on les aide à s'envisager autrement, on les aide aussi à s'extraire de leur vie quand leur vie est soumise à de la violence et à de l'agression, et il y a aussi bien des policières que des avocates que des médecins, c'est avant tout une structure médicale et qui a besoin évidemment comme toutes les associations de fonds. Et ce qui est assez étonnant quand on rentre en immersion dans cette association, c'est qu'on se rend compte que évidemment il y a une histoire de milieu social, mais pas que. Il n'y a pas qu'une histoire de milieu social, et donc la Maison des Femmes est ouverte à toutes les femmes. Il n'y a pas de petite violence. C'est ça qu'il faut aussi entendre.
Si on veut en savoir plus, je donne une adresse internet, hein, lamaisondesfemmes.fr, je ne me trompe pas en donnant cette adresse, Julie Zenati, si on veut la découvrir l'étendue de son action, en tout cas un très beau, très juste combat. Julie Zenati, dans un instant, on va ouvrir une petite boîte à questions, hein, c'est la tradition dans cette émission, ça sera juste après notre page musicale. Alors, que vous avez choisi, c'est un grand classique du musical qui a été magnifié par Liza Minnelli, New York, New York, une explication à ce choix?
Ah bah c'est une chanson qui a été très importante pour moi la première fois que j'ai fait un plateau télé pendant Notre-Dame de Paris. Ça a été Michel Drucker et on m'avait demandé de chanter une chanson de mon choix et j'ai choisi New York, New York parce que c'est une chanson que j'ai toujours chantée aussi à la maison avec Edith Piaf. Et ce jour-là, quand j'ai chanté, c'était assez bizarre. Je crois que c'est le moment où tous mes compères de scène et puis même mon entourage en fait s'est rendu compte que Notre-Dame, c'était pas juste un petit passage dans ma vie, que probablement la musique allait devenir ma vie. C'est vraiment après ces 3 minutes de chant, il s'est passé quelque chose d'assez fort. C'est un peu ma chanson fétiche.
Chanson fétiche, New York, New York, Liza Minnelli. On se retrouve tout de suite après. toujours un tour de force musicale. New York, New York, Liza Minnelli, le choix de Julie Zenati, notre invitée du jour dans Tout Doux. Et c'est vrai que comme Edith Piaf, ça donne toujours des frissons d'entendre ce genre de chansons. Julie Zenati, c'est l'heure à présent et c'est la tradition dans cette émission de notre petite mise en boîte.
La boîte à Tout Doux.
Alors, dans les mains, j'ai une petite boîte en bois que je vous fais entendre. Et à l'intérieur, 18 cartes numérotées de 1 à 18. Au dos de chacune, une question pour mieux vous connaître. Alors, le principe, il est simple. Vous allez me donner 3 numéros de 1 à 18 et je vous lirai la question correspondante. Alors, vous avez droit aussi à un joker, mais de toute façon, il n'y a rien d'indiscret. Alors, allez-y, donnez-moi un premier chiffre entre 1 et 18.
9.
9. Alors, je retourne la carte numéro 9. Vous gagnez 3 millions au loto, qu'est-ce que vous en faites ?
Oh, bah merde alors.
Je prends ma retraite.
Je prends ma retraite.
Ah oui ?
Non, j'ai pas. Je pense que je comblerai déjà tous les gens que j'aime. Mmh. Moi, j'adore faire des cadeaux. Je pense aussi que j'aiderai un peu les associations que je porte depuis longtemps. Mmh. Et voilà, parce que c'est sûr que chanter, c'est bien, mais donner de l'argent, c'est mieux. Mmh. Et je crois que je m'achèterai une petite cabane au bord de l'eau.
Ah, parce que vous avez besoin d'être près de l'eau.
Ouais, moi, j'ai besoin de voir la mer.
Vous avez besoin de la mer. Eh bien, je crois que vous n'êtes pas la seule, surtout en ce moment, à avoir envie de revoir la mer, hein, Julie Zenati. Allez, une autre question. Entre 1 et 18.
5.
Alors, je retourne la carte. Une saison préférée.
J'aime beaucoup le printemps.
Pourquoi en particulier?
Parce qu'il ne fait pas encore trop chaud, parce que c'est le moment où les arbres fleurissent, c'est le moment où la lumière change. Et s'éclaircit. J'aime bien ce moment-là. Ouais.
Donc là, vous êtes contente en ce moment, donc j'imagine.
Oui, je suis contente. Il fait un peu froid, je trouve, pour le printemps.
Un peu froid. Ah, bah, faut pas tout avoir. Le printemps, il est là. Allez, une dernière question. Toujours entre 1 et 18.
18.
Alors là, numéro 18. Quel autre métier auriez-vous aimé faire si vous n'aviez pas été auteur, compositeur, interprète? Est-ce que vous êtes déjà posé la question?
Oui, bien sûr, je me la suis posée. Je crois que j'aurais aimé être metteur en scène.
Metteur en scène? Oui.
Ouais, ouais.
Pourquoi?
J'aurais aimé. Parce que ça allie toutes les choses que j'aime, c'est-à-dire le jeu, la lumière, la danse, la voix. Et puis c'est beau de pouvoir créer comme ça avec plein de corps de métiers, de pas de réussir à faire s'articuler comme ça plein d'arts ensemble. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire.
Eh ben écoutez, la vie n'est pas finie, hein, Julie Zenati, vous avez encore
mais c'est un métier,
tout le temps
ça s'apprend.
Et c'est un métier, ça s'apprend, mais vous avez tout le temps d'y réfléchir. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. On va refermer la petite boîte et puis on la réouvrira demain pour notre prochaine invitée.
Tout Doux avec Vincent Belletti.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Alors votre actualité, Julie Zenati, c'est donc la sortie de ce nouvel album, Refaire danser les fleurs. En attendant la scène, qui vous manque, j'imagine?
Oui, mais là, ça se rapproche, hein, d'après ce qu'il se dit. Donc, dès le 19 juin, si tout va bien, je remonte sur scène. Je passerai à la Cigale à Paris le 20 juin. Et puis ensuite, tranquillement, nous avons recalé, décalé des dates pour qu'on puisse rentrer dans les ouvertures au fur et à mesure. Donc, il faut être positif, on y est là.
Voilà, plutôt confiante dans la reprise sur scène. Si on veut savoir un petit peu plus sur votre actualité, il y a un site, hein, on aura toutes les dates, c'est juliezenati.fr. Toute dernière question, qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui, Julie Zenati ?
Ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est l'idée de se dire que bientôt, on va pouvoir revoir des gens. Ouais, ça me rend très heureuse.
Ouais, parce que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu confiné, comme tout le monde d'ailleurs, être obligé de surveiller vos gestes.
Bien
et ça,
sûr,
le contact, ça vous manquait. Ouais.
Bien sûr. Après, il va falloir qu'on continue à être vigilant, mais on va pouvoir se recroiser à des terrasses de café. Et en fait, moi, ce qui me manque, c'est pas forcément mes gens proches, parce que j'ai la chance de pouvoir les voir en faisant attention. Mais c'est aussi de revoir des gens dans la rue, de réentendre un peu de bruit le soir. Moi, ça me manque.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous, même si c'était que virtuel à travers les ondes. Refaire danser les fleurs, c'est votre nouvel album aux tonalités pop, rock et ballade, et il s'écoute avec vraiment beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de l'écouter. Merci à Pascal Gauthier qui a refait danser les manettes à la régie. Demain, c'est une belle histoire d'amour auquel on vous invitera. Comment surmonter une séparation à cause de la guerre quand on a tout juste été marié? Eh bien, c'est ce qu'ont vécu Odette et Lino Ventura pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une épreuve racontée avec beaucoup d'émotion par la fille et le petit-fils de l'acteur. Ça s'intitule « Attends-moi, mon amour », un très beau livre, et on le parcourra avec Clélia Ventura. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, on va se quitter avec l'un de vos titres, hein, le titre de votre dernier album. Ça s'appelle « Tout est plus pop ». Qu'est-ce que vous entendez par là, Julie Zenati?
Ce que j'entends par là, c'est qu'il suffit d'avoir un peu d'imagination pour pouvoir réinventer les codes, nos vies, pour essayer de rester le plus positif possible. Voilà, c'est un peu ça, cette chanson. C'est un peu de positivisme.
Un peu de positif, oui, c'est un peu de positif. Eh bien, merci, on va se quitter avec Tout est plus pop. Je vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute de RCF. Et puis, n'oubliez pas d'y aller tout doux, au moins jusqu'à demain.